Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et hier soir, devant le CRIF, Emmanuel Macron a promis des actes. Le chef de l'État s'est engagé à lutter contre les discours de haine sur Internet et à sensibiliser la chaîne pénale sur la question de l'antisionisme. Mais au fait, ce mot antisionisme et même sionisme, voilà des termes qui sont quotidiennement utilisés dans l'actualité et qui cependant ne sont pas clairs. Et comme vous le savez, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est la raison pour laquelle j'ai invité Alain Diekhoff. Bonjour, vous êtes directeur du Centre de Recherche International de Sciences Po. Vous avez notamment publié « Le conflit israélo-palestinien » aux éditions Armand Collin. Et nous allons tenter tous les deux de clarifier ces termes qui ont une forte charge polémique. Et peut-être tout d'abord, Alain Diekhoff, nous dire comment est né le mot « sionisme », peut-être aussi comment est née la chose.
Alors, le mot lui-même est apparu à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, pour désigner le mouvement national juif qui était apparu en Europe centrale et orientale, et dont l'objectif finalement était très simple, c'était de donner un foyer au peuple juif, créer finalement un État pour le peuple juif. Donc dans le fond, c'est à la fois, de façon très très classique, un mouvement politique et une idéologie dont l'objectif était précisément de créer un État, ce qui a été objectif qu'il a atteint en effet en 1948.
Un projet consubstantiel à l'idée d'un Israël, ou bien il y avait débat?
Non, il y a eu débat à l'époque, il y a eu débat à l'intérieur du monde juif, il y a eu débat. Ce mouvement était dans le fond très minoritaire au départ, puisque beaucoup de juifs pensaient que ce projet n'était pas réaliste et donc ont défendu d'autres projets, soit les projets qui étaient prévalents en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire l'intégration dans les sociétés d'accueil, là où les juifs étaient devenus citoyens, comme en France ou en Allemagne, et d'autres, à l'est de l'Europe, étaient en faveur d'autres types de nationalisme juif. Ils voulaient, comme le Bund, par exemple, tout simplement.
Le Bund,
c'est le mouvement des travailleurs juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie, et qui a été créé à la fin du 19e siècle également, et dont l'objectif était que les juifs obtiennent une autonomie nationale, culturelle, à l'intérieur d'une Russie qui aurait été évidemment démocratisée, c'est-à-dire après la chute du tsar.
Donc, né à la fin du 19e siècle, l'idée sioniste a-t-elle recueilli, Alain Diekhoff, un certain succès auprès des populations juives européennes? Y a-t-il eu immédiatement beaucoup de sionistes? Est-ce qu'ils se pensaient comme tels?
Alors, évidemment, c'est très variable selon les endroits. En Europe de l'Est, à l'évidence, oui, il a eu un succès important. Il n'était pas le seul, encore une fois, comme je viens de le dire, le Bund était très important aussi. Il y avait l'ultra-orthodoxie juive qui était très très important dans certains pays comme la Pologne, et qui n'a pas été sensible à ce message du tout, qui était même opposé à bien des égards, mais en Europe de l'Est, malgré tout, en Pologne et en Russie jusqu'en 1917, en tous les cas, il a eu un certain succès. Après 1917, non, parce que tout simplement, il a été interdit, comme tous les mouvements après la révolution bolchevique. Mais en Europe de l'Est, oui, certainement, c'était la base du sionisme. En Europe de l'Ouest, non, parce que tout simplement, les Juifs étaient dans d'autres stratégies, comme je l'ai dit, qui étaient des stratégies d'intégration aux sociétés d'accueil.
Et au fur et à mesure que l'antisémitisme est devenu de plus en plus vif au début du XXe siècle, avec les périls qui montaient, qu'est devenu l'idée sioniste, Alain Diekhoff?
Alors, bien évidemment, le sionisme lui-même, dans son apparition, est une sorte de miroir de l'antisémitisme. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a l'antisémitisme que le projet sioniste apparaît et qu'il est porté en particulier par Theodor Herzl, qui a été le vrai fondateur quelque part du sionisme comme mouvement organisé et dont l'objectif était la création d'un état juif. Alors bien sûr que ce mouvement s'est renforcé, en particulier dans l'entre-deux-guerres. Il s'est renforcé d'une part parce que en Europe, si on pense par exemple à la Pologne de l'entre-deux-guerres, qui dérivait de plus en plus vers l'autoritarisme et où l'antisémitisme était très très présent, le sionisme s'est renforcé. Donc il y a eu des vagues migratoires migratoires importantes de juifs polonais, par exemple au début des années 20, vers la Palestine. Et il s'est renforcé surtout aussi parce que, avec la déclaration Balfour de 1917, qui a été donnée en quelque sorte au mouvement sioniste par le gouvernement de Sa Majesté britannique, il a obtenu une reconnaissance internationale et est devenu à partir de ce moment-là un interlocuteur de la puissance mandataire britannique.
Alors ça, c'est pour une définition et une brève histoire du sionisme. L'antisionisme maintenant, Alain Diekhoff.
Alors, pour arriver à l'antisionisme, il faut quand même dire un mot d'un autre sens dans le fond que le terme sionisme a pris aussi, qui n'était pas le sens que je viens de décrire, qu'on pourrait qualifier de finalement une approche analytique, ou aussi même une valorisation du sionisme par ceux qui pouvaient être ses promoteurs, c'est-à-dire que par les juifs qui étaient engagés dans ce mouvement, comme Ben Gourion, qui évidemment revendiquait cette étiquette de sioniste comme quelque chose de positif.
Ben Gourion qui a été le premier président de l'État d'Israël.
Le premier ministre. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir des années 30, déjà dans les années 30, les adversaires du sionisme ont commencé à mettre en avant une définition du sionisme qui allait bien au-delà, qui était très différente de celle que je viens de dire, qui était essentiellement finalement polémique, qui était quasiment une sorte de disqualification du sionisme comme mouvement et une dénonciation assez large du sionisme qui émanait en particulier dans les années 30 du mouvement communiste. Le mouvement communiste a été violemment antisioniste et il a dénoncé le sionisme très vite dans les années 30 comme un impérialisme, comme même un fascisme, très clairement, ce qui est évidemment n'avait rien à voir avec la réalité objective, mais je pense que c'est important de dire que ce terme a été chargé dès les années 30 d'une connotation négative par ses adversaires les plus virulents et donc dans une logique de propagande. Et je pense que c'est vraiment important de voir aussi cet usage du terme par d'autres locuteurs, évidemment, mais par d'autres locuteurs. Parce que c'est ça qui permet aussi de faire le lien avec ce qu'on peut mettre sous le terme antisionisme, parce que là aussi on peut y mettre des choses finalement différentes. On peut y mettre quelque chose qui est, je dirais, absolument acceptable, et qu'à la limite, je ne mettrais même pas vraiment sous ce terme, mais parfois, on voit bien qu'il y a des confusions, c'est-à-dire une critique des thèses, finalement, du projet sioniste lui-même, c'est-à-dire, est-ce que le projet qui appelait, donc, comme je le disais, à la fin du XIXe siècle, à la reterritorialisation des Juifs, ce projet, il a été, et il peut être l'objet d'une critique, je dirais, objective comme projet politique. On peut aussi, bien sûr, critiquer les actes des différents gouvernements israéliens, aussi bien au niveau intérieur qu'extérieur, et ça ne pose pas de problème particulier. Là où le problème commence à émerger, c'est lorsque l'antisionisme se greffe sur cette vision un petit peu diabolisée en fait du sionisme que j'ai évoqué auparavant, c'est-à-dire lorsqu'on dérive vers une conception où on critique un soi-disant sionisme mondial, etc., où on véhicule finalement toute une sorte de vision fantasmatique d'une sorte de puissance juive omniprésente, mais en utilisant le terme sionisme. Là, l'antisionisme va vers autre chose, vers quelque chose de démonologique, et je crois que c'est là, il y a un vrai problème, indéniablement.
Alain Diekhoff, dans les années 1930, l'antisémitisme est à un niveau tel que l'accusation d'impérialisme lancée contre les juifs qui veulent vivre en Israël semble un peu étrange. Est-ce que ça n'est pas aussi une manière d'emblée de considérer que le droit des juifs à vivre, ou en tout cas à vivre paisiblement, peut être contesté?
Il y avait certainement de ça, parce que, encore une fois, parce que comme je l'ai dit, l'origine de cette vision démonologique du sionisme, véhiculée en particulier par le mouvement communiste international à l'époque, était aussi reposée sur le fait que le projet communiste était évidemment aux antipodes quelque part du projet sioniste. C'était un projet, en tous les cas, dont la vocation était internationaliste. Et ce que les sionistes voulaient, c'était finalement créer un État comme les autres. Donc là, il y avait une contradiction évidente, et je pense que ça explique aussi la violence de ces attaques contre le sionisme, du fait de cette vision totalement opposée, hein, de vision du monde totalement différente.
En tout cas, ça veut dire que l'antisionisme, je dis bien l'antisionisme, est né plutôt à gauche, chez les communistes, tandis que chez les nazis, eux, est-ce que le terme était utilisé ?
Assez peu. Il y a beaucoup de contradictions dans le discours du nazisme autour de cela. Ils étaient évidemment foncièrement, et on le sait, totalement antisémites. Mais la question du sionisme était assez marginale pour eux. En réalité, ils n'étaient pas particulièrement, enfin, ils n'ont pas concentré, disons, leur attention sur cela. Mais ce qui est quand même, ce qu'il faut dire également, c'est que cette vision, comme je le disais, un petit peu démonologique du sionisme, si elle est née en effet dans ces mouvements communistes. D'ailleurs, il y a un épisode très connu qui est de l'après-guerre, lui, 1952. C'est le procès Slansky. C'est un procès contre le secrétaire général du Parti communiste tchécoslovaque qui était juif, comme 10 autres de ses co-accusés. Il y en avait 14 qui ont été accusés en 1952 de complotionnistes, alors qu'ils étaient communistes, et c'était un moyen, en fait, de s'en prendre à des juifs, très clairement. Ils ont d'ailleurs été, pour la plupart, exécutés. Donc, vous voyez, mais le point important, c'est que, si vous voulez, il y a aussi eu un transfert, une diffusion de ce type d'approche qu'on a pu retrouver ensuite, dans les années 50, 60, dans certains mouvements panarabes, dans l'extrême droite aussi. Donc ça s'est diffusé. Si vous voulez, cette vision un peu démonologique du sionisme n'est plus restée l'apanage du mouvement communiste, mais a eu tendance à s'étendre ailleurs.
7h54 sur France Culture, on continue en votre compagnie, Alain Diekhoff, vous qui êtes directeur du Centre de Recherche Internationale de Sciences Po et auteur du Conflit israélo-palestinien aux éditions Armand Collin, d'explorer ce champ lexical entre sionisme et anti-sionisme. À l'origine, l'idée de faire un État pour les Juifs était-elle une idée laïque ? Parce que peut-être que l'antisionisme vise aussi une certaine conception religieuse du peuple juif.
Non, alors là très clairement, c'est quelque chose qui est très très peu présent. De la même façon que l'antisémitisme dit moderne est apparu à la fin du 19e siècle, fondé sur une base raciale, et donc, de ce point de vue-là, était très différent de l'anti-judaïsme classique, qui était essentiellement une opposition de nature religieuse. L'anti-sionisme est une sorte de, dans cette acception en quelque sorte extrême, est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qui se cristallise sur ce projet politique, très clairement, qui se cristallise autour de ce projet politique, mais de la dimension religieuse est pas du tout présente. Elle est d'autant moins présente que le sionisme, alors là, comme projet historique, n'avait pas cette dimension. Certes, il revendiquait la création d'un État pour les Juifs en Palestine, Sion, c'est le nom d'une colline à Jérusalem, donc évidemment le nom n'a pas été choisi par hasard, c'est bien pour établir un lien avec le passé juif, mais ses promoteurs et l'idée en tant que telle était une idée séculière de nationalisme. Ça, il faut toujours le répéter pour bien dire qu'au départ, tout au moins, la dimension religieuse était très 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 marginale.
Dans l'après-Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, donc Alain Diekhoff, est-ce que la légitimité d'Israël devient plus forte, incontestable ? Bref, je vous laisse utiliser le terme qui vous convient.
Non, la légitimité d'Israël dans l'après-Deuxième Guerre mondiale a été évidemment difficile, très très limitée, très contestée. Aujourd'hui, en tant qu'État, en tous les cas, Israël a une beaucoup plus grande légitimité internationale qu'en 1950.
Pourquoi ?
Alors, pourquoi ? Parce que quelque part, l'État, c'est... Si on l'explique aujourd'hui, il faut un tout petit peu expliquer le passé. Le passé, c'est que quand Israël a été créé, dans le fond, il a été reconnu par les États-Unis, par l'Union soviétique. Ça peut paraître paradoxal par rapport à ce que j'ai dit ensuite sur la position auparavant sur la position du mouvement communiste, mais tout simplement parce qu'à l'époque, en 1947, l'Union soviétique a été favorable à la création d'un État juif parce qu'il voulait surtout chasser les Britanniques de Palestine et il pensait que c'était le meilleur moyen de le faire. Donc il y avait une raison tactique qui les ont conduits à reconnaître l'État d'Israël. Mais sinon, Israël était surtout, dans le fond, un État qui avait des liens avec l'Occident, pour faire vite. Hein. Et avec les pays de l'Est jusqu'en 1967. Mais sinon, sa légitimité internationale était assez faible. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus grande parce que, quelque part, l'État s'est normalisé. Il a été reconnu par quasiment tous les États, à part les États, même pas tous d'ailleurs, certains l'ont reconnu aussi, mais certains États musulmans l'ont reconnu, mais la plupart des États musulmans ne l'ont pas reconnu.
Dans l'histoire du sionisme et de l'antisionisme après la Seconde Guerre mondiale, il y a des dates importantes, par exemple les dates de la guerre des Six Jours et de la guerre du Kippour. Peut-être nous dire en quelques mots, qu'est-ce que ces deux guerres ont changé à Alain Diakhoff dans la représentation de l'État d'Israël?
Ben, je pense que 67, c'est un tournant dans un double sens. Le premier sens, c'est que ça va conduire un certain nombre de juifs qui étaient pas nécessairement très proches d'Israël à s'en rapprocher. On peut penser là évidemment à la figure emblématique pour le judaïsme français de Raymond Aron, hein, qui se définissait toujours comme un juif très assimilé, mais qui après 67, tout en restant sur cette position, a dit que la guerre avait éveillé en lui, en quelque sorte, un sentiment de proximité avec l'aventure d'Israël qu'il n'avait pas eu jusque-là. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'une partie des juifs qui n'étaient pas encore sionistes en ce sens de l'attachement à Israël le sont devenus. Et dans l'autre sens, ceux qui étaient critiques d'Israël, je dirais, le sont devenus encore davantage. C'est-à-dire que l'antisionisme après 67, c'est lui aussi beaucoup, beaucoup renforcé, en réalité, dans le monde arabe, évidemment, dans le mouvement communiste qui était encore très puissant à l'époque. En quelque sorte, Israël est devenu un point de cristallisation, je dirais, beaucoup plus puissant entre les pour et les contre après 67.
Donc, une évolution. Et aujourd'hui, est-ce que on a, en quelque sorte, une modification importante de la représentation de l'État?
Ce qui me paraît important, c'est que, comme je l'ai dit, au point de vue de la légitimité internationale, indéniablement, elle a cru. En même temps, il faut aussi constater que la critique véhémente dans certains secteurs, évidemment, est devenue plus puissante.
Justement, on va continuer à en discuter, Alain Diakhoff. Maintenant qu'on a posé, en quelque sorte, le cadre historique, on va voir la question du sionisme et de l'antisionisme dans l'actualité, après le dîner du CRIF, après les insultes proférées contre notre camarade Alain Finkielkraut, et après également un sondage qui souligne l'importance de la croyance en l'existence, je cite, d'un complot sioniste. Il y aurait 22% des Français qui y croiraient. On en parle en votre compagnie, Alain Diakhoff, dans quelques minutes. Vous avez publié Le conflit israélo-palestinien et vous serez rejoint par Esther Benbassa. Elle est professeure à l'école pratique des hautes études et sénatrice verte de Paris. On va évoquer des questions de vocabulaire entre sionisme, antisionisme, antisémitisme, à la suite du discours d'Emmanuel Macron hier soir au dîner du CRIF. Mais auparavant, puisque nous sommes en compagnie d'Alain Diakhoff, directeur du Centre de Recherche International de Sciences Po, auteur du conflit israélo-palestinien aux éditions Armand Collin, et d'Esther Benbassa. Bonjour Esther.
Bonjour.
Benbassa. Vous êtes professeure à l'école pratique des hautes études, vous êtes également sénatrice de Paris Europe Écologie Les Verts, et vous faites partie de cette commission d'enquête du Sénat. Vous avez d'ailleurs le rapport avec vous au sujet donc de cette affaire Benalla. Une réaction à ce que vient de dire Frédéric Saïs?
Il a très bien résumé, c'est formidable. Donc il a dû lire le rapport.
Qui est un assez gros rapport, vous l'avez dit.
Oui, il fait 140 pages. Enfin, nous avons, nous, le
120 pages plus annexe.
Oui, jusqu'à 11h hier, il était confidentiel. Donc bon, écoutez, c'est vrai, pour une fois, on va quand même, nos citoyens vont dire que, voilà, il y a des contre-pouvoirs qui font leur travail. L'Assemblée ne l'a pas fait parce que la majorité est l'AREM. Donc, voilà, je crois que il faut souligner le travail fait, mais aussi les conclusions. Parce que là, vous n'avez pas parlé de la saisine qui a été demandée au bureau pour que le bureau demande cette saisine pour les grands marquis de l'exécutif. Alors nous avons monsieur Srozza,
le directeur de cabinet
Emmanuel Macron, monsieur Alexis Kohler qui est secrétaire général et monsieur Lionel Lavergne qui était responsable de la sécurité du président. Donc là c'est ils n'ont pas, enfin la saisine ne sera pas faite pour parjure, mais le juge décidera s'il s'agit d'omission ou de parjure, de contradiction ou de parjure. Là, écoutez, je crois qu'il y a un peu de ménage qui se fait et c'est sain pour la démocratie, parce que ceux qui disent que voilà, le Sénat a voulu se venger, écoutez, tout est politique. Au Sénat, on n'est pas là pour cueillir des fleurs, même si je suis écologiste, mais bon, on a fait notre travail et toutefois, on voit que la démocratie souffre de beaucoup de mots, copinage, opacité, manque de diligence, pas de relations et de, disons, de d'échanges avec les différentes institutions. Monsieur Benalla, il a utilisé, après avoir été renvoyé de l'Élysée, 23 fois ses quatre passeports.
Frédéric Saïs. Cela dit, il faut quand même entendre ce que vous répond l'Élysée d'un point de vue du droit. Il vous accuse, vous, le Sénat, d'outrepasser légèrement les compétences de la commission d'enquête en voulant contrôler non pas uniquement les politiques publiques, comme c'est mentionné par la Constitution, mais aussi l'organisation interne d'un corps qui, en l'occurrence, s'appelle l'Élysée. Est-ce que cet argument-là est complètement à rejeter ou est-ce que effectivement on peut se poser la question de jusqu'où peut aller le Sénat dans la minutie, j'allais dire?
C'est le rôle du Parlement. Déjà dans la Déclaration des droits de l'homme, on demande que le peuple, les élus du peuple, puissent contrôler le travail fait. Nous avons légitimement le droit de contrôler l'exécutif. D'accord. Alors là, il n'y a pas eu de dépassement de notre rôle. Au contraire, nous avons fait notre rôle et c'est très bon pour la fluidité de la démocratie. Monsieur Griveau n'avait même pas lu le rapport, donc là c'était de la rhétorique. Et moi je trouve que l'Élysée devrait prendre au sérieux ce travail et faire le ménage comme il se doit, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à changer.
8h25 sur France Culture, on va évoquer maintenant la question de l'antisionisme, de l'antisémitisme, des liens éventuels entre ces deux termes. Auparavant, je vous propose d'entendre un extrait du discours d'Emmanuel Macron. C'était hier soir devant le CRIF.
D'abord, nommer le mal. Qui ne voit que l'antisémitisme se cache de plus en plus sous le masque de l'antisionisme? Je l'ai dit lors du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv, l'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. C'est pourquoi je confirme que la France, qui, comme vous l'avez rappelé, l'a endossé en décembre avec ses partenaires européens, mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah.
Alors là, il faut faire quelques clarifications. Nous sommes donc en compagnie d'Alain Diekhoff et d'Esther Benbassa. Esther Benbassa, vous êtes une femme politique puisque vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris, mais vous êtes aussi historienne, professeure à l'École pratique des hautes études et notamment historienne du judaïsme. Votre point de vue sur ce que vient de dire Emmanuel Macron?
D'abord, je dirais que son discours est réconfortant pour les Juifs dans le sens où il montre qu'il n'y a pas d'antisémitisme d'État, comme en Hongrie ou ailleurs. D'accord. C'est une avancée, bien sûr. Mais là, je suppose que vous voulez que je donne mon avis sur la définition antisémitisme, antisionisme, n'est-ce pas, telle qu'elle a été adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah, qui est le résultat du lobbying, n'est-ce pas, d'associations pro Netanyahou en Israël, qui a fait un bon lobbying auprès des organismes européens et qu'il a fait adopter cette définition. Moi, je la trouve dangereuse. Parce que, d'abord, on ne peut pas nier que derrière l'antisionisme de certains, il y ait des relents d'antisémitisme, ça c'est évident. Mais tant qu'on ne demande pas, cet antisionisme n'est pas pour la destruction d'Israël, n'est pas excessif dans la critique, et excessif quand je dis, bien sûr, on a le droit de critiquer la politique israélienne menée aujourd'hui par Monsieur Netanyahou. Même à ce moment-là, si cette loi était valide en Israël aussi, mes amis progressistes israéliens auraient été condamnés. J'en fais partie aussi. Je suis une progressiste dans le sens très large et je pense qu'on peut critiquer Israël, on peut critiquer sa politique à l'endroit des Palestiniens, mais on ne peut pas dire que toutes les personnes qui critiquent Israël sont antisémites. Là, on peut plus rien critiquer, ni l'Italie, ni la Hongrie, aucun pays. On peut pas critiquer. Voilà.
Votre point de vue, Alain Diekhoff.
Bon, il faudrait voir évidemment ce qu'il y a dans la loi, mais moi, je ne pense pas que la critique.
Ça ne sera pas une loi, résolution.
Oui, ou une résolution. Enfin, mais en tous les cas, je ne pense pas que ce que le président Macron a évoqué vise les critiques de cette nature-là, c'est-à-dire les critiques d'action du gouvernement israélien, de pratiques de ce gouvernement. Je pense qu'elles ne tomberont pas du tout sous la coupe d'une législation quelconque. Je pense que ce qui est derrière cela, c'est finalement ce que j'appelais auparavant une sorte d'antisionisme démonologique qui existe, c'est-à-dire l'idée que sous couvert d'antisionisme, c'est en fait de l'antisémitisme pur et simple qui s'exprime cette nouvelle forme s'alimente d'une haine, je dirais, structurelle de l'État d'Israël en tant que tel. Et là, je pense qu'il y a quand même une nuance importante.
Définir.
Alors, la définition, Alain Diekhoff, parce que la question donc de l'antisionisme, qu'entend-on par antisionisme ? S'agit-il, par exemple, de détruire l'État d'Israël ? S'agit-il d'autre chose ?
Réponse. Pour moi, la définition, je la résumerai de l'antisionisme tel que je l'ai défini, c'est-à-dire ce que j'ai appelé aussi l'antisionisme négateur, si vous voulez. C'est quoi ? Il commence lorsque le droit à l'autodétermination nationale des Juifs est contesté, et il atteint son apogée lorsqu'on appelle à la destruction de l'État d'Israël. C'est ça, pour moi, l'antisionisme.
On est d'accord.
Et donc, cet antisionisme, on le trouve où, par exemple ? Ben, il y a un État qui n'est pas très loin d'Israël, qui est fondé, je dirais, dans une de ses idéologies sur ça, c'est l'Iran. C'est un antisionisme radical qui vise, qui promeut la promotion de l'État d'Israël. Et ce n'est pas par hasard, et j'insiste sur ce point, ce n'est pas par hasard que ce même État ait, par exemple, il y a quelques années, fait un concours de caricature autour de la Shoah. Parce que cet antisionisme-là va de pair avec un négationnisme absolu et aussi avec un conspirationnisme. Ça, il faut être très clair. Et donc, il faut pas essayer de dire « Oui, mais la critique ne sera plus possible. » Si, tout à fait. Ce qui est visé, c'est exactement ce que je viens de dire. Et ça, je crois que ça, c'est absolument, en effet, quelque chose qui nourrit l'antisémitisme, pour le coup. Ça me paraît indéniable. Et je crois que c'est, il faut se tenir à cela. Il faut pas aller au-delà. C'est-à-dire que si on vise un antisionisme, c'est ce type d'antisionisme qu'il faut viser. Le reste fait partie du débat démocratique.
Hein. Esther Benbassa, votre point de vue à ce sujet ?
Je suis d'accord avec le début de ce qu'a dit Monsieur Diekhoff. Mais je vais vous dire, nous, on n'est pas en Iran, d'abord. Ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme et l'antisionisme iranien. Je sais que c'est un grand thème dans les préoccupations de Monsieur Netanyahou et consorts. Toutefois, en Europe, comment on va définir cela? Moi, je peux vous prendre aussi des écrivains israéliens qui vraiment critiquent lourdement Israël. Alors, où est-ce qu'on va situer le point d'orgue de ce...
Alors, je vais vous donner un exemple, Esther Benbassa, 8h32 sur France Culture, puisque nous parlons d'antisémitisme et d'antisionisme en tentant de définir les termes, en la compagnie d'Alain Diekhoff, directeur du Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, et de vous-même, qui êtes professeur à l'École Pratique des Hautes Études et sénatrice de Paris. Est-ce que... tentative ou une volonté de boycotter l'État d'Israël, c'est une initiative qui est menée, vous paraît être de nature à être antisioniste, antisémite, bref, quelle distinction et comment catégoriseriez-vous cette tentative ?
Écoutez, moi, le BDS, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Mais enfin, c'est une opinion. Ceux qui pratiquent ou adhèrent au BDS, bon, c'est une contestation des importations venant de Palestine. Ces oranges de Jaffa, il n'y a pas d'orange, mais il n'y a jamais eu d'ailleurs. Elles poussent en Palestine. Voilà, et on appelle à ne pas consommer ces oranges et autre chose, aussi l'industrie, à ne pas investir en Israël, etc. Moi, je suis universitaire. Je pars du point de vue que moi, je ne vais pas cesser d'inviter des collègues dans mon université, des collègues israéliens, en disant voilà, je suis pour le BDS, mes collègues israéliens, je ne les invite pas non plus. D'accord ? Alors là, ce n'est pas mon point de vue. Toutefois, ceux qui pratiquent cette contestation ne sont pas des antisémites. C'est une copie de ce qu'on a fait lors de l'apartheid en Afrique du Sud. Bon, il y a certains qui prennent ça pour tenir des discours antisémites. Il peut y avoir. Il y a aussi parmi les contestataires d'Israël. Mais enfin, d'abord, je finirai en disant que ce sera une proposition de résolution. C'est très décoratif. Hein. On ne peut pas, à partir de ce texte, condamner qui que ce soit.
Alain Diekhoff, votre point de vue là-dessus et justement cette comparaison entre Israël et l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, dans quelle mesure elle s'apparente justement à de l'antisionisme ou bien au contraire à un parallèle qui peut être justifié, votre point de vue ?
Alors, bien sûr, ça relève quelque part d'un antisionisme, ça me paraît indéniable. Mais la question de savoir si ça pourrait éventuellement tomber le coup sous le coup d'une loi qui lirait ça à l'antisémitisme est plus problématique. Et je pense qu'en effet, une opérationnalisation véritable d'un point de vue juridique sera extrêmement compliquée, sauf dans des cas vraiment où, dans le fond, on l'a bien vu, par exemple, avec l'épisode des insultes odieuses vis-à-vis d'Alain Finkielkraut. Quand on dit sale sioniste, c'est pour pas dire sale juif. En fait, c'est ça la réalité. Là, il tombe déjà sous le coup de la loi.
Là, pour l'antisémitisme, enfin, je ne soutiens pas les idées de Monsieur Finkielkraut, même si j'ai adoré dans ma jeunesse son livre, Le Juif imaginaire. Toutefois, c'est très regrettable qu'il ait été cible de tels propos orduriers. Mais moi, je prendrais les mots antisémite, enfin peut-être sûrement même ce monsieur qui disait sale sioniste pensait mélanger tout, israélien, juif, etc. Il y a cette confusion et que parfois le CRIF entretient aussi. Mais il a dit...
Pourquoi le CRIF l'entretiendrait, Esther?
Écoutez, c'est cette demande insistante sur l'introduction dans l'antisémitisme de l'antisionisme est une idée de Benjamin Netanyahou qui ne souhaite pas des critiques sur Israël et qui par le moyen des communautés disons propage cette idée. Mais enfin, on va pas faire ici de la hard politique. Mais
la politique dure, très dure en français.
Et on va quand même dire que cette personne qui insultait Monsieur Winkelkraut a dit la France est à nous. Après rentre à Tel Aviv. Alors là, oui, je suis d'accord, parce qu'il faut. Moi, je ne me mets pas à la place du juge. Le juge saura faire la distinction. Et d'ailleurs, je crois que Monsieur Finkielkraut a décidé de ne pas porter plainte. Je ne sais pas s'il a raison ou pas. En tout cas, c'était inadmissible ce qui est arrivé. Il faut punir les gens qui ont tenu ces propos, pas seulement l'antisémitisme et ses propos orduriers, mais vous voyez comment la frontière est quand même très étanche entre ces deux termes.
Alain Diekhoff, l'évolution de l'idée antisioniste à gauche, parce que là aussi, on évoquait l'histoire israélienne tout à l'heure. Pendant très longtemps, Israël a été aussi un laboratoire pour le socialisme au travers du kibbutz. Bref, c'était un État qui bénéficiait d'une certaine sympathie à gauche. Qu'en est-il advenu par la suite ?
Alors justement, si vous évoquez la gauche, historiquement, oui, sympathie du côté de la social-démocratie, mais certainement pas sympathie du côté du mouvement communiste, puisqu'il a au contraire été un critique acerbe du projet sioniste dès les origines. Vous lisez même Lénine dans le texte, il critique le sionisme comme un mouvement bourgeois, réactionnaire, impérialiste, enfin tout y est déjà. Donc il y a deux gauches de ce point de vue-là. Très clairement, qui ont été très clairement différenciés sur cette question du rapport au sionisme et du rapport à Israël.
Est-ce qu'on les retrouve aujourd'hui, ces deux gauches ?
Je dirais en un certain sens, oui. En un certain sens, oui, parce que, alors même si évidemment la gauche un peu social-démocrate n'est plus aujourd'hui que l'ombre d'elle-même, elle est affaiblie, nous le savons.
L'autre gauche aussi.
Oui, mais on voit quand même dans un mouvement, je crois, comme la France insoumise, quelque chose qui rappelle ce qui pouvait exister à l'époque du mouvement communiste. D'ailleurs, c'est pas très surprenant puisque certains électeurs sont passés de l'un à l'autre et où on revoit quand même un peu cette critique très très forte d'Israël.
Justement, qu'est-ce que vous en pensez, Esther Benbassa, puisque vous êtes engagée auprès des Verts? La gauche a souvent été accusée d'antisionisme, je dis bien d'antisionisme. Une partie des Verts aussi, qu'en est-il aujourd'hui selon vous?
Écoutez, il faut arrêter de confondre la critique d'Israël aujourd'hui, qui mène une politique quand même assez dure, même très dure, à l'endroit des Palestiniens, qui s'oppose à l'autodétermination des Palestiniens. Alors là, remonter au communisme, à Lénine, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Excusez-moi, moi j'ai grandi en Israël, le sionisme, ma génération déjà, à 20 ans, n'était plus sioniste. Le sionisme, c'est un sionisme d'État. Et le sionisme des pionniers a disparu. Alors, on ne va pas maintenant dire que critiquer Israël, c'est en passant par la critique du sionisme et de l'antisémitisme. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire « je ne suis pas une adepte de la France insoumise », ça, je vous l'assure, malgré ma sympathie pour certaines de leurs idées, ils ne sont pas antisémites. Et la gauche, ça veut dire quoi? Cette gauche dont on parle, c'est la gauche qui a quitté son antisémitisme au 19e siècle et qu'à l'affaire Dreyfus, n'est-ce pas, s'est rangée du côté de Dreyfus. Alors, est-ce que cette gauche est antisémite? Les communistes seraient-ils aujourd'hui antisémites? C'est quand même ce n'est pas possible de parler de cette façon-là. Les Verts, en quoi sont-ils antisémites? Ils ont élu quand même moi qui suis qui a même un accent, qui ne nie pas sa judéité. Voilà, je ne sais pas, il faut pas non plus aller dans les extrêmes et réduire la critique d'Israël à à l'antisémitisme. Là, ça serait grave.
Non, mais en tous les cas, moi, j'ai pas dit ça. Hein. Moi, j'ai pas du tout dit ça.
Non, je parle pas du tout. Ouais, je parle en général.
Oui, c'est ça. Non, ben, ça, évidemment, je pense que c'est. Mais en revanche, qu'il y ait une dimension antisioniste ou en tous les cas anti-israélienne dans une partie de cette gauche-là, je crois que ça, c'est relativement incontestable.
À droite.
Et bien sûr, à droite aussi. À droite aussi, dans
l'extrême droite.
L'extrême droite, certainement.
On parle des communistes, parlons un peu de l'extrême droite.
Parce qu'on parle un peu de la genèse de toute cette idée.
Puisqu'on parle justement de l'extrême droite, là aussi il y a eu une évolution, avec notamment une attitude différente par rapport à l'État d'Israël et par rapport à la fois au sionisme et à l'antisionisme, avec tout d'abord une certaine admiration pendant une époque pour les victoires remportées par l'État hébreu, puis un changement de discours, en tout cas auprès de certains milieux d'extrême droite, Alain Diakhoff.
Alors l'extrême droite, oui. Si on fait un tout petit peu d'histoire, dans les années 60, vous aviez des gens autour de Tixier-Vignancourt et tout ça, qui étaient, en un certain sens, pro-sionistes, dans le sens où ils voulaient dire par là qu'en fait que les Juifs devaient aller en Israël. Donc de ce point de vue-là, ils voyaient ça positivement. Ben, en fait, c'était clairement
parce qu'il y avait
une dimension antisémite, quoi, dans le fond. Donc là, en effet, il y a toujours eu une ambiguïté très très forte dans ce courant d'extrême droite. Mais aujourd'hui, je dirais que il y a même plus ça, c'est-à-dire que dans les groupes les plus radicaux, dont certains vont être interdits, il y a une condamnation totale, y compris du sionisme, parce que tout ce qui de près ou de loin a un rapport avec la judéité est condamné.
Et puis alors, une autre figure de l'antisionisme, Esther Benbassa, c'est ce sondage qui a été mené par la Fondation Jean Jaurès et l'Observatoire Conspiracy Watch, lequel tendrait à prouver qu'il y aurait 22% des Français qui approuveraient l'idée selon laquelle, je cite, « il existe un complot sioniste à l'échelle mondiale ». C'est un chiffre qui montrait jusqu'à 36% des sympathisants du Rassemblement National. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense ce que j'ai dit il y a quelques minutes, l'extrême droite a changé de façade, mais quand même c'est l'extrême droite qui est allée vandaliser un cimetière juif en Alsace encore il y a quelques jours avec des croix gammées. C'est pas les arabo-musulmans qui utilisent
ça. Ce n'est pas l'extrême droite. Le parti, le Rassemblement National.
Bah, écoutez, le Rassemblement National, moi, je dirais, je ne vais pas porter des jugements, mais il y a un ADN quand même antisémite depuis le 19e siècle qui accompagne l'extrême droite. Donc, on va
officiellement,
pas.
Officiellement, ils s'en défendent.
Alors, écoutez, moi, officieusement ou officiellement, pour moi, c'est pas important. D'ailleurs, nous discutons. Est-ce que on doit mettre l'antisionisme dans l'antisémitisme, moi j'aimerais que le combat soit mené contre l'antisémitisme et d'une manière continue et dans l'éducation, par la culture, par la persuasion, par l'explication. Je ne sais pas si ça donnera des résultats, mais la preuve est que l'antisémitisme est en train toujours de continuer son chemin et c'est très mauvais signe parce que les crises sociales, vous savez, qu'elles produisent aussi ce genre de rejet des minorités. D'ailleurs, l'homophobie monte aussi, et enfin, c'est tout, et les racismes. Donc, c'est tout ensemble, et c'est regrettable.
Un dernier mot, Alain Diakhoff, peut-être sur le caractère polysémique du complot sioniste. Donc, il y a un pourcentage important de Français, hein, quels que soient les partis, si on en croit ce sondage. Complot sioniste, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que là aussi, il peut y avoir deux sens au moins.
Moi, je suis pas dans la tête de ceux qui ont répondu, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient en tête quand ils ont répondu cela. Je pense que, à l'évidence, certainement, une partie des sondés sont tout simplement des antisémites purs et simples, et qui ont cette vision du complot qui date de la fin du 19e siècle avec le protocole des sages de Sion. D'autres ont peut-être une vision un peu différente, c'est-à-dire qu'ils mélangent un peu le rôle que, en effet, une partie, par exemple, du lobby pro-israélien peut avoir aux États-Unis avec que ça renverrait à une sorte de complot. Alors une sorte d'amalgame totalement délirant, mais qui peut aussi peut-être expliquer une partie. Mais encore une fois, je suis pas dans leur tête.
Un dernier mot rapidement.
Je me contenterai de la France et je rappellerai quand même que 19% des Français votent pour l'extrême droite. Donc c'est une réponse à ce sondage.